Nous sommes
Simon,
Julie,
Laurent,
Anne,
Patrick,
Laura,
Roland,
Pauline,
Laurent,
et vous écoutez le podcast d'Oxfam Magazine du Monde.
Dans ce podcast, nous explorons et enquêtons sur des sujets qui nous questionnent autour de notre cœur de métier, le commerce équitable.
Nous vous invitons à rejoindre l'aventure pour découvrir les dessous des alternatives qui nous interrogent et nous donnent l'envie d'agir.
La série Le début de la fin, épisode 3. Quand les marches climatiques ne marchent pas.
Que faire alors? Après, se mobiliser dans la rue, ça je l'ai fait aussi.
En tout cas, les jeunes, on dit souvent, ils veulent plus voter, ils sont plus intéressés par la politique. Mais en fait, si, les jeunes, ils sont intéressés par la politique, mais une autre forme de politique.
Je ne trouvais plus ma place dans les marches.
C'est chouette, mais ça amène pas de changement, alors on va tenter la désobéissance civile.
Après un premier épisode faisant l'effroyable constat du changement climatique, des autres limites planétaires et des conséquences sur la vie humaine, après un second épisode interrogeant des acteurs et actrices du monde associatif belge francophone sur le sentiment d'échec face à la surdité et l'inaction sociétale, je poursuis mon errance en interrogeant Louise et Fabrice. Louise était en fin d'études lorsque les manifestations climatiques et la grève scolaire pour le climat initiée par Greta Thunberg ont déboulé dans les médias et les capitales à travers le monde. Cela a poussé Louise à consacrer son mémoire de master en sciences de l'éducation à l'expérience démocratique que les jeunes ont pu faire à travers l'activisme pendant cette période. Fabrice, citoyen engagé, décide, comme il va nous l'expliquer, de rejoindre en 2019 la branche d'Extinction Rebellion en Belgique. Fabrice est architecte et enseigne dans le supérieur. Je commence par demander à Fabrice si le constat d'échec des mobilisations traditionnelles de la société civile face à l'urgence climatique, qui est le fil rouge de notre série, le début de la fin, est un constat qu'il partage lui aussi.
Personnellement, c'est aussi une suite peut-être d'échecs aussi, parce que finalement, j'ai testé beaucoup de choses. D'abord, c'est le changement par le vote en tant que citoyen. On est dans un pays où on arrive à diluer un peu le message politique par le compromis, par la coalition. Et finalement, chaque message et chaque programme de parti qui est défendu pendant les élections, il n'est pas assumé directement en raison de cet esprit de compromis. Hein. Donc, que faire alors? Après, se mobiliser dans la rue, ça je l'ai fait aussi. J'ai aussi manifesté, j'ai participé à des marches climat, dont la marche qui a mobilisé quand même plus de 75 000 personnes à Bruxelles. Et donc on se dit, on se retrouve en masse à Bruxelles, en cortège, motivé. On commence à toucher autre chose qu'une bulle, puisqu'on est quand même assez nombreux. Et finalement, dès le lendemain de la marche, on a une ministre du climat de l'époque qui part en jet privé à la COP, alors qu'elle était même pas, qu'elle n'avait pas vraiment un discours à porter. Et en plus, le moyen de transport n'était pas vraiment un message très positif par rapport à ce qui s'était passé.
Voilà. Alors moi, je me suis engagée dans Extinction Révolution en 2019 parce que je pense que l'urgence climatique est là et qu'on ne peut plus attendre, regarde. Alors c'est sympa, hein, les petites actions de sensibilisation, les manifs dans la rue, les pétitions, les actions de sensibilisation à gauche, à droite et même au centre. Tout ça c'est sympa, mais ça sert pas à grand chose, ça fait pas changer la marche du monde. C'est un peu comme faire du jardinage sur son balcon le dimanche matin. C'est sympa.
Extrait de la pièce Le procès du commerce équitable.
Et donc après, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on fait le constat que ça ne marche pas. Et donc, moi, je me positionne ça un peu comme des stratégies, et pas comme une stratégie qui a échoué et pas nécessairement un échec personnel. Finalement, moi, j'ai mis en place une stratégie à un moment donné dans ma vie personnelle qui était de militer politiquement, de voter, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais quand ça ne marche pas? Et donc, le premier contact que j'ai eu avec Extinction Rebellion, c'était lors de leur première action à Bruxelles pour la Royal Rebellion, où finalement, ce qui était proposé à ce moment-là, c'était à la fois d'avoir une action directe, non violente, d'interpellation au niveau du Palais Royal et de la personne du roi, en lui disant, ben voilà, le politique ne bouge pas, symboliquement, agissez. Et d'un autre côté, on présentait aussi des aspects plus de culture régénérative, où on pouvait se retrouver dans ce qui était qualifié d'endroit pacifié, disons, en dehors de l'action, où étaient mis en place des assemblées populaires. Et donc là, on rentrait dans un autre mode de proposition d'interpellation, c'est de se dire, l'assemblée populaire, ça peut devenir une assemblée citoyenne, et c'est d'ailleurs une des trois demandes d'Extinction Rebellion, c'est de mettre en place une assemblée citoyenne pour discuter d'une question climatique, écologique et sociale. C'était pas seulement une dynamique de discussion, c'était aussi une dynamique de concrétisation de la parole qui était échangée et une façon de fonctionner très horizontale que j'avais pas encore expérimentée, qui m'a vraiment interpellé. Et donc là, à ce moment-là, la stratégie de faire avec le politique, c'est-à-dire en renforçant la démocratie représentative par une démocratie participative, c'est un peu ce qui m'a amené à rentrer dans le mouvement d'Extinction Rebellion. Et aussi parce que finalement, je ne trouvais plus ma place dans les marches. Je me dis, allez, c'est bien, c'est un moment sympathique, c'est un moment à la limite qui dérange un moment le business as usual de la capitale. Hein. On stoppe les voitures, on marche. Et d'ailleurs, dans les dernières marches, on n'avait même plus arrêté les voitures. On a simplement mis une limite entre la marche et les voitures, mais voilà, on avait quand même continué à laisser fonctionner la ville.
Renforcer la démocratie et à la fois ne pas être dupe dans le dialogue avec le politique du manque d'écoute réelle et du manque d'action.
On a interpellé pendant tout un temps le politique en disant voilà, il faut mettre en place des assemblées populaires citoyennes, pardon. Il faut déclarer une urgence climatique et s'engager vers un changement de système économique. Et finalement, on ne s'entend pas, on n'attend pas de réponse, il n'y a pas d'action. Et donc, là, le côté action directe et désobéissance civile, je trouvais qu'il avait un sens. Et finalement, ça montrait aussi que des individus, des rebelles, Extinction Rebellion, à un moment donné, choisissaient de mettre leur corps en danger, d'avoir un peu une position presque sacrificielle, parce que finalement, la désobéissance civile, ça amène la répression aussi, et ça amène l'arrestation. Et donc, on est formé à pouvoir... parce qu'on n'a pas, on ne subit pas une arrestation comme ça, de façon sans conséquence. Et donc, il faut avoir cette formation pour pouvoir assumer émotionnellement ce genre de moment. Et donc, on ne fait pas ça de gaieté de cœur, mais en fait, le mouvement, l'engagement par rapport à l'urgence climatique et environnementale fait que, finalement, on a besoin et on sent qu'il y a un engagement qui doit aller au-delà des formes d'engagement habituelles.
Fabrice résume son parcours militant en estimant que chaque échec est vu comme stratégique et l'emmène ailleurs. D'abord dans des formes d'engagement plus classiques, puis plus radicales avec les actions d'Extinction Rebellion. Mais même là, on continue à fonctionner par essai et erreur.
En fait, on peut faire le constat de l'échec, mais je trouve que si on fait un constat d'échec du genre de celui qui dirait « on a tous échoué », je pense que ça, c'est vrai que c'est assez culpabilisant, finalement, puisque finalement, on a une position personnelle de culpabilité. Par contre, il faut réévaluer les stratégies. Et donc, est-ce que la stratégie d'interpeller le gouvernement, de demander d'agir en voyant que finalement, il n'y a pas d'action, est-ce que c'est encore une bonne stratégie ? Est-ce qu'on n'a pas échoué dans cette stratégie-là ? Dans la stratégie aussi de vouloir mener, lever un mouvement de masse avec l'ambition d'atteindre 3,5% de la population. En Belgique, ça fait plus de 350 000 personnes. Donc on peut clairement dire que cette stratégie-là, d'un mouvement non violent qui pourra arriver à des changements de société par la mobilisation, on n'y est pas arrivé et on est dans un constat d'échec.
Dans l'épisode précédent, on a interrogé le rôle des ONG par rapport à ce constat d'échec et cette volonté de rejoindre des actions plus radicales, comme l'a fait Fabrice. On entendait parfois l'idée que des actions plus radicales sont nécessaires, mais que les ONG, les associations, font un boulot complémentaire, que tout cela participe d'une lame de fond, qu'il faut des formes d'engagement qui conviennent à tout le monde. Mais je me demande tout de même si le public engagé, les travailleurs et travailleuses d'ONG, les bénévoles, les sympathisants, sympathisantes, tout ce monde qui est très sensibilisé, tout ce monde ne gagnerait-il pas à rejoindre une proposition plus radicale ? Puisqu'on fait le constat qu'on a besoin d'une masse critique plus grande pour créer une forme de basculement.
C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et ça pose aussi la question du relais, parce que finalement, c'est des ONG qui touchent quand même pas mal de monde aussi. Hein, donc, ils peuvent, à un moment donné, dans une volonté d'engagement, dans une action plus radicale, amener des gens à une action, par exemple. Mais le constat, c'est que ça ne s'est pas fait. Et donc, quand on entend le positionnement des ONG en général, elle se positionne sans doute à juste titre aussi, parce que je pense qu'on a besoin de ce niveau de contre-pouvoir, ou en tout cas de rapport de force par rapport à l'instauration, à la mise en place de lobbies, aussi qu'ils soient des lobbies écologistes, de lobbies progressistes, pour pouvoir renverser la tendance des lobbies plus économiques, qui sont beaucoup plus présents que les lobbies écologiques au niveau du politique. Et donc, je crois qu'ils ont leur rôle à jouer. Et c'est vrai que... Enfin, bon, je n'ai pas de... J'ai pas envie de jeter une pierre à ces mouvements ou à ces ONG, mais j'ai pas de regrets non plus. Mais bon, le constat, c'est que ça ne s'est pas passé. Donc, on n'a pas su établir un rapport de force avec un mouvement de masse, et donc on n'a pas eu la réponse proactive de l'État non plus. Je crois qu'il y a une démission, et ça, la présence des lobbies économiques qui influencent très fort les politiques, je pense que ça, c'est quelque chose qui est tellement ancré, et pas seulement au niveau national, que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser la question de est-ce qu'on va vraiment y arriver de faire changer des politiques alors qu'elles sont engagées dans un système économique qu'elles n'ont pas envie de changer. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter d'attendre et de se dire, d'avoir un regret parce qu'on ne suit pas, parce qu'on ne recrute pas, en tout cas suffisamment par rapport aux objectifs. Mais il faut aussi aller s'intéresser aux autres luttes. Et c'est pour ça qu'aussi, on apporte beaucoup d'attention aussi à l'aspect décolonisation du mouvement et au fait que finalement, on a on connaît beaucoup de positions de mouvements écologiques qui sont quand même assez européo-centrées. Et finalement, ça suit un peu la mise en place du capitalisme au niveau mondial. Quoi. On l'a subi d'abord en Europe. Peut-être qu'on a une réaction qui n'est pas seulement nombriliste, hein, mais il faut aussi s'intéresser aux pays du Sud, et qui sont déjà les plus impactés, et voir aussi comment on peut ramener une lutte écologiste qui soit plus globale et plus solidaire aussi.
Fabrice évoquait un ratio d'environ 3,5% de la population, 3,5% qui se mobilise, comme étant une masse critique nécessaire pour opérer un basculement. Il est vrai que des recherches en sciences sociales tendent à démontrer qu'il suffit d'une minorité très agissante et contestataire pour faire évoluer dans son ensemble une société. Les chercheurs et les chercheuses ne sont cependant pas toujours d'accord sur le ratio exact de cette fameuse masse critique. Cependant, pour le militant de base, c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'il ne faudrait pas sans doute convaincre une majorité pour que des changements de mentalité se mettent en place et que, soudainement, la majorité bascule dans une nouvelle attitude, de nouveaux comportements sociaux. Mais sur cette masse critique, Fabrice voit les choses d'un œil moins idéaliste.
Personnellement, j'ai arrêté de me poser la question de la masse critique suffisante parce que je pense qu'on n'y arrivera pas. Par contre, et c'est ça que la stratégie doit être discutée et sans doute modifiée, et donc il faut mettre en place des modes d'action qui soient à l'échelle du nombre, en fait. Hein, et pas nécessairement essayer de se projeter dans quelque chose qui ne sera pas atteignable. Et donc, dans l'action directe de désobéissance civile, c'est tout à fait... possible. On peut avoir des actions disruptives qui ne sont pas nécessairement des actions de masse. Et à ce moment-là, elles évoluent aussi par rapport à leurs objectifs et à leurs cibles, peut-être aussi. Moi, je crois qu'il faut aussi, avant de penser rassemblement et peut-être de faire converger des mouvements dans un même mouvement, moi, je trouve que je suis plus à l'aise avec la notion de brassage. Ou de maillage, en tout cas, d'engagement et de mobilisation. Et finalement, quand on se focalise uniquement sur les conséquences, sur les changements climatiques et sur la perte de la biodiversité sans en envisager les conséquences directes, à ce moment-là, on ne visualise pas sans doute les aspects sociaux, l'aspect sociétal de ces changements. Et donc, quand on imagine les conséquences du changement climatique par rapport à des déplacements de personnes, hein, on rattache ce phénomène de migration à ce qu'on connaît et à la militarisation des frontières. Les problèmes de justice sociale, on peut les avoir chez nous aussi. On voit qu'on n'en parle plus trop dans la presse, mais après les inondations d'août, on a eu un gros relais médiatique par rapport aux inondations. Quand on suit les groupes qui sont toujours en soutien des personnes qui sont dans la région de Liège, à Troyes ou ailleurs, on voit qu'elles sont dans une grande détresse sociale et économique. Et donc, ça, ce sont des conséquences directes. Et ça touche des personnes qui, peut-être, ne se seraient pas mobilisées dans des mouvements écologiques, mais peut-être dans des mouvements sociaux. Et donc, il n'y a pas de frontières. Et la conséquence du réchauffement climatique et de tout ce qui est à agression environnementale va amener à renforcer ces inégalités sociales. Et donc, par la force des choses, les mouvements climat et écologique, ils ont un rôle à jouer par rapport au social. Parce que en luttant contre ces effets, en tout cas en essayant de faire changer les positions politiques par rapport aux enjeux climatiques et écologiques, on peut aussi agir sur la problématique sociale.
S'ensuit une discussion avec Fabrice sur la stratégie d'Extinction Rebellion. Roger Hallam, que nous avions évoqué dans les précédents épisodes, a semblé plutôt, un temps du moins, soutenir au sein du mouvement une position qui consiste à rester concentré sur une action fédératrice, centralisée, dans les capitales, là où sont les élites. Décentraliser la lutte apparaît alors comme une mauvaise stratégie, car elle ne ferait qu'éparpiller les énergies militantes un peu partout sur le territoire. Pour autant, les blocages des ponts de Londres en Angleterre, qui ont eu lieu en 2019, n'ont pas vraiment abouti.
Et donc, est-ce qu'à l'issue de ces blocages en Angleterre, il y a vraiment eu une action du monde politique anglais? Moi, je n'ai pas l'impression. Et donc, c'est là que la question de la stratégie, si on la répète pour qu'on n'agisse pas, et donc à un certain moment, finalement, s'ils n'ont pas envie d'agir, ben, on va essayer de faire sans. On a essayé de faire avec, en essayant d'amener aussi en Angleterre le principe de l'Assemblée citoyenne. On n'a pas pu faire avec, et donc c'est peut-être le moment d'essayer de faire sans. Donc il n'y a pas vraiment de contextualisation par rapport à ça, mais ça décède peut-être à la source des nuisances aussi. Donc quand il y a des entreprises qui ont une attitude destructrice par rapport à la planète, au vivant, c'est peut-être les interpeller directement et avoir une disruption et une des actions qui soient plus ciblées par rapport à ça. Donc si le politique ne veut pas rentrer dans une stratégie de modification d'un système économique, alors il y a des mots un peu dans tous les mouvements difficiles à sortir, mais c'est plus révolutionnaire d'être anticapitaliste. On voit vraiment qu'il y a un lien de cause à effet avec une économie capitaliste d'hyperproduction et de toujours plus produire dans un monde fini et toutes les conséquences qu'on connaît au niveau environnemental pour la planète. Devant l'ampleur d'une catastrophe, il y a souvent le déni qui s'installe. Et je pense que... Je crois que la crise du Covid n'a pas arrangé non plus les choses. Mais il y a vraiment une question de savoir... d'interpellation aussi du public. Parce qu'on dit aussi... maintenant, il n'y a plus personne... on ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant de la problématique climatique. Mais est-ce que est-ce que c'est réellement vrai ? Moi, dans le milieu académique, quand j'enseigne, j'ai posé une fois la question, je présentais le dernier rapport du GIEC. Et à la fin, la dernière diapositive, c'est le GIEC, qu'est-ce que c'est ? Je dis, ça, je ne vais pas vous demander. Je vais quand même le faire. On était une trentaine d'étudiants de master, et il y a trois ou quatre doigts qui sont levés. Et là, on se prend une claque quand même. Hein, on est dans un environnement... Où le corps de l'enseignement, en tout cas la matière qui était donnée, c'était reposé sur les enjeux climatiques, hein, l'adaptation, la transformation. Et on n'a que 3 ou 4 réponses de jeunes gens qui ont entre 20 et 22 ans. Et on fait un constat aussi d'échec à ce moment-là. On se dit, qu'est-ce qu'on a raté dans la communication ?
Pourtant, les premières années d'Extinction Rebellion, ce sont aussi les années de grève et de marche climatique des jeunes. Quand elles débutent, elles prennent tout de même par surprise les écoles et les politiques. Pendant que Fabrice fait le choix d'aller vers des actions plus radicales, Louise observe que les manifestations, elles, entraînent dans leur sillage des jeunes qui au départ n'étaient pas attirés par cette forme de militance.
Mais j'ai l'impression que les manifestations pour le climat, ça a été, et aussi avec d'autres mouvements comme MeToo, puis plus tard Black Lives Matter, ça a été un peu le début de rendre les manifestations un peu mainstream et un peu, en fait, c'est pas un truc d'activistes, de radicaux d'aller dans les manifestations, mais c'est vraiment un moyen d'exprimer ses opinions et de faire bouger les choses. Moi, ça a été dans le cadre d'un stage que je suis allée à la première manif pour le climat. Enfin, je suis allée avec une organisation, donc c'est vrai que ça motive encore plus d'y aller en groupe et pas d'y aller seule, parce que je pense que ça fait vraiment peur, ça, d'y aller seule dans une manifestation. Mais du coup, j'ai trouvé ça... En plus, le fait que ce soit mené par les jeunes, c'est vraiment... Ça donne beaucoup d'espoir, parce qu'on voit vraiment cette déconnexion... En tout cas, les jeunes, on dit souvent ils veulent plus voter, ils sont plus intéressés par la politique. Mais en fait, si, les jeunes, ils sont intéressés par la politique, mais une autre forme de politique. Et le fait qu'un mouvement social soit mené par des jeunes et en plus, même des mineurs, quoi. Greta Thunberg était mineure. En Belgique, il y avait des manifestations. c'était des mineurs, bah c'est, ça donne de la force pour un mouvement. Listen. Ça m'a permis de me dire, ok, ça va toucher plus de gens et je vais peut-être me sentir moins seule dans mon combat, dans mes valeurs, le fait que je sois végétarienne, que je pense à l'environnement. J'ai eu l'impression que ça touchait vraiment de façon plus globale la société, mais j'avais une critique beaucoup plus grande sur est-ce que ça va vraiment toucher les politiques, est-ce que ça va amener des changements réels. Et je crois que voilà, c'était une retenue au final qu'ils étaient avérés vrais. Enfin, il y a eu des changements de comportement pour en tout cas une partie de la population. Mais il y a aussi eu... En fait, ce qui était dommage, c'est que c'était un peu un mouvement, et c'est ce que j'ai vu dans mon mémoire, c'est qu'il y avait une espèce d'effet de mode aussi avec ces manifestations pour le climat, où il y avait des jeunes qui allaient « Ah, allez, c'est un mouvement, maintenant j'y vais. » Et puis après, rien ne change dans leur... rien ne change dans leurs actions individuelles et même leurs actions collectives, quoi.
Alors, ces marches climatiques, échec ou victoire ?
C'est une victoire au niveau sociétal, au niveau... on a vu qu'on était capable de faire des mouvements collectifs, on a vu la force de... En fait, on peut se rassembler et on peut... je ne sais pas comment dire. On a vu que les humains étaient capables encore de faire des actions collectives et de voir vers une même direction, enfin d'aller dans une même direction tous ensemble et d'avoir des valeurs communes et de vouloir défendre des valeurs communes, particulièrement les générations les plus jeunes. Par contre, c'est un échec au niveau politique parce qu'il n'y a pas eu de continuité politique, malheureusement. Enfin, en tout cas, pas assez forte par rapport à ce que les revendications, enfin par rapport à nos revendications, par rapport à nos envies en tant que jeunes et par rapport à la gravité de la situation. Mais il y a aussi une différence au niveau générationnel, notamment qu'on a vu que c'était un mouvement de jeunes, il y avait beaucoup de jeunes présents, mais dans des grandes manifestations, on voyait aussi des personnes de tout âge, sauf qu'il y a quand même, dans les actions qui sont prises après, il y a les jeunes qui vont avoir envie de continuer le combat d'une certaine manière, en changeant notamment ses comportements individuels, en mangeant moins de viande, en essayant de faire du zéro déchet, etc. Mais qu'ils sont confrontés, et moi aussi je vis ça, être confronté avec des générations plus âgées, comme mes parents ou mes grands-parents, qui ne changent pas grand-chose ou qui changent vraiment peu. Et c'est vrai que ça peut générer une frustration où on se dit que, OK, nous, on a envie de changer, mais pour qu'il y ait des améliorations à ce niveau-là, pour que les choses avancent, il faut que tout le monde s'y mette. Et c'était décevant de voir certaines fois aussi, il y a des parents qui participent, mais après, ils participent aux manifestations et en fait, après, ils continuent d'acheter leurs bouteilles de plastique toutes les semaines parce qu'ils veulent boire de l'eau pétillante de cette marque-là, quoi. En fait, je crois que c'est ça qui génère énormément de désillusions et de frustrations et même d'anxiété chez les jeunes. C'est d'être confronté au fait que, en fait, ce combat-là, c'est une question de vie ou de mort pour nous. Enfin, c'est une question vraiment... on voit l'effondrement du monde si on ne change rien. Si on se renseigne vraiment sur les crises climatiques, on commence à... Enfin, ça peut vraiment nous atteindre psychologiquement. Et c'est quelque chose que m'ont exprimé aussi les personnes que j'ai interrogées. Des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu de l'éco-anxiété et qu'ils en avaient toujours. Et autour de moi aussi, mes amis, etc., on est vraiment inquiets.
Cependant, ce n'est pas parce que le climat et la biodiversité sont des défis gigantesques et urgents que les jeunes en oublient les autres luttes sociales.
Les personnes que j'ai interrogées sont très intéressées par les questions environnementales, mais pas que. Il y a vraiment une espèce de volonté de convergence des luttes. C'est-à-dire que oui, on se bat pour l'environnement, mais aussi on se bat pour les questions féministes, on se bat pour les questions raciales. C'est vraiment quelque chose où il n'y a pas... et même aussi, évidemment, de justice sociale, c'est vraiment l'idée, on ne veut pas, bien sûr qu'on se bat pour les questions environnementales, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça aussi qui est très intéressant pour les générations, je dirais, qui sont là maintenant adolescentes, c'est qu'elles ont vraiment plein de luttes qui se croisent et qu'elles veulent combattre. Donc c'est positif et en même temps, ça amène un espèce de questionnement interne de, ok, où est-ce que je dois mettre mon effort, mon énergie, parce que c'est vrai que c'est hyper énergivore de « Ok, je vais aller faire des manifestations féministes. Ah oui, mais il y a une manifestation environnementale. Ah oui, mais je veux aussi aller regarder ça. » C'est un peu... Ça peut nous bouffer. Si on veut être vraiment engagé et se battre sur toutes les questions qui nous intéressent, ça devient presque trop. Mais sur la question environnementale... c'est vrai qu'il y a, peut-être une dimension un petit peu différente de d'habitude par rapport à l'urgence, par rapport à il faut agir vraiment, vraiment maintenant parce que les scientifiques nous disent « Ah oui, mais en fait, dans 10 ans, dans 20 ans, bah, ça sera vraiment trop tard. Il faut agir maintenant, même si c'est déjà trop. » Mais il y a des changements radicaux à amener aujourd'hui. Et même si on voudrait que les changements radicaux arrivent dans tous les domaines, peut-être qu'il y a certains domaines où il faut encore plus pousser la chose parce que sinon, bah, on verra encore plus de problèmes sociaux avec des migrations environnementales, avec de la désertification à cause de ces choses-là, avec la pauvreté, des famines. En fait, on ne se rend pas compte à quel point, enfin, les changements environnementaux vont exacerber les autres problèmes, les autres, tout ce qui est problème de justice sociale, d'inégalité, en fait. C'est ça le plus important.
Et est-ce que les jeunes qui ont participé aux marches climatiques en viennent plus ou moins rapidement à faire le même chemin que Fabrice, en passant de manifestations rangées aux actions de désobéissance civile ?
Il y a des façons différentes de s'engager après avoir vu que les manifestations, ouais, c'était chouette et tout, mais ça n'a pas amené de changement politique réel, ou du moins pas les changements politiques qu'on attendait. Il y en a certains qui vont... faire de la désobéissance civile. Dans les personnes que j'ai interviewées, il y a une personne qui m'a dit « Ouais, je me suis rendu compte que les manifestations pour le climat, c'était bien, il y avait du monde, etc. Mais ça amenait pas à grand-chose. Donc, je me suis investie dans Extinction Rebellion. Donc, j'étais vraiment pas du tout étonnée à entendre ça. En fait, ça paraît logique. Une manifestation toute gentille, toute pacifique, qui fait de la musique, c'est chouette, mais ça n'amène pas de changement, alors on va tenter la désobéissance civile. Donc c'est une possibilité, mais il y en avait beaucoup d'autres aussi où c'était ok, on est allé aux manifestations et c'est bien, mais on est désillusionné par les politiques parce que ça n'avance pas. Alors je vais faire des études, je vais faire des études en environnement, je vais choisir un métier qui permet d'être en accord avec ces valeurs-là. Et il y en avait beaucoup que j'ai interrogé qui étaient en agro-ingé, ou alors en éducation à l'environnement, des choses comme ça. Je pense que c'est des manières différentes de s'engager. Donc, il y a soit aller dans des actions collectives plus radicales, ou alors dans son choix de carrière, son choix d'études, d'aller vers des choses plus en accord avec ses valeurs.
Mais l'éléphant au milieu de la pièce de la militance reste le nombre de personnes que l'on arrive à mobiliser ou non.
J'ai l'impression que ça reste encore une niche, ce militantisme, que même si il y a eu beaucoup de monde qui ont participé aux manifestations pour le climat, bah, il y a beaucoup de manifestations, c'est le dimanche, la dernière où on a participé, il y avait beaucoup de monde, il y avait 50 000 personnes à Bruxelles, génial. Mais encore une fois, est-ce que ces personnes-là seraient prêtes à dire « Ok, c'est bon, j'arrête de travailler parce que mon avenir est en danger ». J'ai l'impression qu'il y a un espèce de militantisme gentillet, de « faut aller à la manif pour le climat parce que c'est important ». Et peut-être que j'en fais partie aussi, parce que je vais pas aller aux manifestations toute la semaine, etc. Et ce serait très fatigant. Mais je me demande vraiment à quel point on pourrait avoir un mouvement mondial de « Ok, maintenant, on arrête de jouer dans le système ». Parce qu'on est dans cette... Il y a cette théorie du système économique avec l'ouvrier qui est sur son tapis roulant. Il faut qu'il ait de l'argent pour pouvoir vivre, mais il déteste son travail. Mais il faut quand même qu'il court sur son tapis roulant pour faire marcher le système, qui déteste le système capitaliste qui lui fait beaucoup de mal. Mais si il continue pas de courir, bah, il n'aura pas l'argent et il ne pourra pas vivre. Et il y a vraiment je trouve que ce petit tapis roulant, il existe toujours avec ce système capitaliste où, bah oui, on aimerait bien que les choses changent, mais au final, bah, en fait, pour vivre, j'ai besoin d'argent. Pour gagner de l'argent, il faut que je travaille et je rentre dans ce système au final.
Jusqu'au jour où on aura plus à perdre qu'à gagner ?
J'ai du mal à voir, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait assez de volonté généralisée pour qu'il y ait un changement radical au niveau systémique, au niveau « ok, maintenant il faut qu'on fasse de la décroissance, il faut qu'on change notre système économique » et que j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait vraiment un énorme problème global, mais énorme, en fait une catastrophe, et qu'il soit global, généralisé et qui touche encore plus les personnes de puissance, les personnes qui ont l'argent. Et limite, en fait, il faut que le système s'effondre par lui-même. Et donc, c'est triste. Enfin, c'est un discours très triste et très négatif que je suis en train de dire. Mais j'espère encore que des changements sont possibles. Mais au plus les années avancent, au plus je me dis, mais en fait, on va finir par devoir attendre que le monde s'effondre pour qu'on arrive à autre chose. Et c'est une tragédie. Et je travaille aussi pour ne pas croire à ces choses-là. Et j'ai encore de l'espoir, mais... j'en ai peur de cette finalité-là, qu'on voit le monde s'effondrer beaucoup plus tôt qu'on ne le pense et qu'on le vive, quoi.
Tout au long de cette série d'épisodes intitulée « Le début de la fin », l'objectif était de s'interroger sur le sentiment d'impuissance, le constat d'échec posé par l'un des cofondateurs d'Extinction Rebellion. L'échec des forces progressistes, écologiques et sociales. L'échec du monde militant à réveiller la société dans son ensemble, à faire basculer l'opinion, à mettre au rebut de toutes les institutions les vieux paradigmes de croissance illimitée et du tout à l'économique. À mettre tout en haut de la pile le dossier climat et biodiversité qui mériterait à lui seul la part du lion de l'action politique. On l'a entendu, parler d'échec semble condamner notre histoire et fermer nos horizons. Je sais que l'on pourra dire que c'est contre-productif, que cela cause de l'anxiété, de l'éco-anxiété, et qu'il nous faut plutôt de nouveaux récits, de futurs désirables, des initiatives inspirantes, ou tout simplement juste de l'action, plus de blabla.
Ceci, ce sont les limites environnementales de la planète. Le plafond au-delà duquel la planète est en danger, c'est-à-dire qu'on se consomme trop, on pollue trop. On fait face à des changements climatiques, à de la dévastation écologique, à de la pollution chimique. Les pays industrialisés européens, comme la Belgique, en savent quelque chose. Alors, ce qu'il faudrait, c'est recréer une manière de vivre qui reste à l'intérieur de ces limites, en dessous de ce plafond environnemental.
Extrait de la pièce « Le procès du commerce équitable ».
Je voulais également tenter de comprendre pourquoi l'urgence et l'absolue nécessité de s'attaquer aux problèmes écologiques ne percent pas davantage dans le milieu militant, pourtant lui-même relais de tous ces messages. Pourquoi il ne nous fédère pas encore ? Pas davantage. Pourquoi nous restons, mais pour combien de temps encore, dans une société qui tente de perpétuer malgré tout un modèle écocide ? Au moment de terminer ce podcast, l'année 2022 se termine doucement. L'actualité de ces dernières semaines, c'était la Coupe du Monde au Qatar, la guerre en Ukraine, la crise énergétique. Depuis notre petite Belgique, tous ces événements semblent avoir usé beaucoup la militance. Mais les apparences sont peut-être trompeuses. Les habitudes et la normalité du vieux monde apparaissent de plus en plus absurdes, démesurées, obscènes. Pourtant, la militance ne s'avoue jamais vaincue. Des actions de désobéissance civile continuent à travers le monde, aux quatre coins de la planète. Les médias ne les relayent pas toujours, quand ils ne cherchent pas carrément à les déconsidérer, à les décrédibiliser. Mais comme on a pu l'entendre tout au long de ce podcast, les changements à opérer et demandés par les activistes vont bien plus loin que quelques aménagements aux entournures du système. Cette position plus radicale qui peut faire peur aux citoyens et citoyennes lambda devient une position à laquelle il est de plus en plus censé d'adhérer au vu de l'impasse énergétique, écologique et sociale vers laquelle nous mènent les dogmes néolibéraux de croissance. Avant de clôturer ce troisième et dernier épisode du Début de la fin, podcast sur l'urgence d'agir, rappelons qu'en même temps, des nouveaux logiciels pour rebooter le monde existent déjà ou émergent. Ils sont à trouver chez de nombreux penseurs et penseuses des Suds, qui depuis longtemps formulent une critique globale du système colonial et capitaliste porté par les puissances occidentales. Ils sont à trouver dans de nombreuses alternatives qui dessinent des embryons de systèmes différents. Et je pense également à l'économie du donut, initiée par Kate Raworth, pour ce qui est de repenser fondamentalement les axiomes économiques, ainsi qu'au mouvement écoféministe de la subsistance porté par Maria Mies et Veronica Benholt. À travers ces alternatives, ces ouvrages, ces prises de parole, un secteur de la société en particulier revient souvent. À certains égards, faisant partie du problème, mais également de la solution. Souvent dévalorisés par des élites urbaines, ils structurent pourtant tous nos paysages, notre biodiversité, toute la base de notre alimentation, notre santé, notre capacité à capter ou non le carbone, à assurer une résilience et une souveraineté alimentaire. C'est le secteur de l'agriculture.
L'agriculture, qu'on a quelquefois tendance à mettre dans un coin comme si c'était une activité dépassée ou du passé, est clairement au cœur des enjeux de la société.
Nous aurons certainement l'occasion dans le prochain podcast de parler agroécologie en Belgique et ailleurs. À bientôt donc.
Vous venez d'écouter Ça va le faire, produit par Oxfam Magazine du Monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou d'autres sur lesquels nous travaillons, retrouvez nos contenus sur notre site internet, onglet ressources ou campagne. Pour écouter d'autres épisodes de ce podcast ou vous abonner, rendez-vous sur Spotify, SoundCloud, Deezer ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre des étoiles.